On accueille Isabelle maintenant.
Bonsoir, bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Voilà, je vous appelle parce que je suis une femme bipolaire depuis 30 ans maintenant.
D'accord.
Et j'ai été diagnostiquée, j'avais 29 ans, le diagnostic était excellent, mais j'ai vécu dans le déni de ma maladie pendant 20 ans.
Alors, vous avez été diagnostiquée à 29 ans, cela veut-il dire que ces 20 ans dont vous parlez, c'est avant ces 29 ans ?
Non, ça s'est vraiment déclaré à 29 ans.
Oui, d'accord, mais vous me dites avoir vécu dans le déni de votre maladie.
À partir de 29 ans, c'est-à-dire quand on m'a déclaré bipolaire, je ne voulais pas le croire.
D'accord, d'accord. On va d'abord parler de l'avant, si vous le voulez bien, Isabelle.
Je vous en prie.
C'est important de parler de l'avant, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui souffrent de bipolarité et qui ne savent pas, qui n'ont pas été diagnostiquées et qui sont... voilà, qui sont un petit peu dans le vide, ne savent pas ce qu'ils ont, pourquoi parfois ça va très 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 bien, et puis pourquoi d'autres fois ça va très très mal, et que ça fait le yo-yo comme ça, et jusqu'au moment où elles sont diagnostiquées. Vous, avant d'être diagnostiquée, comment, de quoi vous vous rappelez? Comment ça se passait, cette bipolarité?
J'étais très mélancolique à l'adolescence. J'avais des crises de mélancolie. Mais il y a eu surtout une cassure. J'ai vécu en couple à l'âge de 25 ans, où là, j'ai vécu l'enfer, et des insomnies ont commencé à se révéler. Et je travaillais à l'époque aussi dans la publicité, qui demandait énormément de stress. Donc, au niveau de ma situation professionnelle et familiale, j'étais complètement déstabilisée.
D'accord.
Et... En fait, c'est sur mon lieu de travail que j'ai fait ma première crise de bipolarité. Je me suis prise pour une directrice artistique, alors que c'était dans mon imagination. Donc mes collègues m'ont emmenée en hôpital psychiatrique, et là ça a été le choc le plus total. Et ensuite, j'ai été récupérée par un psychiatre, un très très bon psychiatre en région parisienne, qui m'a diagnostiquée bipolaire. Et j'étais en phase euphorique.
D'accord, alors décrivez-moi cette phase euphorique.
Ah bah, la phase euphorique, on a énormément de plaisir, on dort très peu, on a l'esprit extrêmement vif, on est très créatif, et on voit la vie en rose.
D'accord. Et est-ce que ça se traduisait... Par quel type d'acte ça se traduisait, ces périodes justement où vous étiez en up? Est-ce que vous aviez des comportements à risque?
Oui, j'étais très très énervée, paraît-il.
Oui.
Et puis, c'est délicat, c'est dur à expliquer. On se sent invincible.
Oui.
Et moi, j'avais des signes. C'est-à-dire que... C'est difficile à expliquer.
Vous aviez des signes, vous perceviez des choses, vous voyiez des choses, un peu comme
on
si...
On a d'autres repères.
Oui, comme si vous étiez supérieur aux autres et que vous voyiez beaucoup mieux que les autres.
Tout à fait, voilà, c'est tout à fait ça. Mm-hmm. Et donc, j'ai été mise sous lithium. D'abord, j'ai été internée en hôpital psychiatrique pendant 2 mois. Ensuite, j'ai été suivie par un psychiatre, j'ai été mise sous lithium. Et après, il y a la phase euphorique, il y a la phase de dépression. Alors là, c'est catastrophique, on a des envies de suicide.
Oui.
Et on est extrêmement triste, on n'aime plus la vie. Et comme on a eu énormément de plaisir pendant la phase euphorique, c'est encore plus douloureux.
Oui,
et encore
chute.
Plus de souffrance au moment de la dépression. Donc en fait, j'ai eu un parcours chaotique jusqu'à 45 ans. Et alors, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on prend un traitement pour stabiliser l'humeur, on se sent bien, on n'est pas malade, on arrête le traitement et on replonge. Donc c'est sans fin.
Oui. Vous en parlez très simplement, mais très justement.
Bah, disons que là en fait, ce qui m'a permis de simplifier les choses, c'est que j'ai écrit deux nouvelles à propos de ma bipolarité.
Oui.
Et ça m'a beaucoup aidé à évacuer toute cette souffrance et en même temps ce plaisir. Parce qu'il y a un plaisir quand on tombe dans la folie. Et ça, c'est le piège. Parce qu'on veut reproduire le moment d'euphorie. Inconsciemment, bien évidemment.
Oui.
Et le problème que j'ai eu arrivé à 40 ans, j'ai dû quitter Paris. Donc je me suis retrouvée en province, sans travail, sans amis, avec simplement ma famille, mes parents qui étaient là pour me soulager. Mes parents ont eu un comportement exceptionnel à mon égard. Ils m'ont vraiment beaucoup aidée, m'ont beaucoup soutenue, parce que la famille souffre d'un enfant bipolaire. Il y a des conséquences dramatiques au niveau du relationnel en famille. Mmh,
mmh. J'allais vous demander justement comment vos proches avaient vécu et encaissé ça. D'abord vos parents, comment ça s'est passé pour vos parents ?
Ils m'ont toujours accueillie. C'est-à-dire que quand j'étais en phase euphorique et que j'avais un arrêt maladie, ils m'ont toujours recueillie chez eux. Et à chaque fois me guidant vers un psychiatre, me disant que j'allais trouver une stabilité avec les médicaments, que je n'étais pas fichue, que ma vie n'était pas fichue, parce que c'est terrible au moment de la dépression. Moi, j'ai eu un moment où ma mère me donnait à manger à la petite cuillère.
Oui, oui.
On est un véritable légume. Et puis surtout, nous avons la honte. Parce qu'au moment des phases euphoriques, on a un comportement qui n'est pas normal à l'égard d'autrui. Et lorsqu'on reprend le cours des choses au moment de la déprime, on se rend compte qu'on a eu des excès à l'égard d'autrui.
C'est-à-dire ?
Très expansif.
Expliquant un peu la vie à tout le monde, non ?
Oui, voilà, je parlais à tout le monde.
C'est un peu l'effet.
C'est difficile à expliquer.
C'est un peu l'effet que la cocaïne
oui,
ou l'extase
voilà,
ou l'extase produit.
De cocaïne.
Oui, c'est souvent l'effet que l'on compare en fait ces ressentis de phase up. Parfois, sont comparés à un effet de cocaïne ou d'extase, de MDMA. Mais ça, on continue. Donc, avec vos mots à vous, c'est vrai que vous expliquez qu'on a envie de conserver, de rattraper toujours cet instant-là qui est délicieux, finalement.
Ah, il y a du plaisir.
Ouais.
Énormément de plaisir. Et quand je me suis retrouvée en province où je n'avais plus de travail, je me suis retrouvée au RMI. Alors là, ça a été la chute, c'était une grande rupture. Et j'avais des cauchemars 4 à 5 nuits, 4 à 5 fois par nuit. Et là, j'ai cessé complètement de prendre mes médicaments et j'ai sombré dans la folie. C'est-à-dire que dans l'appartement, je criais toute seule, j'avais des crises de paranoïa. J'avais l'impression qu'il y avait des micros chez moi, que la radio me parlait, que j'étais surveillée. Enfin, ça a été... j'avais des hallucinations. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et lorsque le RMI a disparu pour être remplacé par le RSA, j'ai pris peur. Et j'étais suivie par une assistante sociale qui m'a, à ce moment-là, proposé que je puisse obtenir une allocation d'adulte handicapé, mais oui. À condition que j'aille voir un psychiatre.
Mmh.
Et finalement, ça a été le déclencheur. Comme j'avais très très peur du RSA, j'ai accepté. Et là, j'ai été prise en main par un excellent psychiatre qui maintenant travaille à Nice. J'ai eu un séjour en hôpital psychiatrique, j'ai eu un traitement. Et à la suite de ce traitement, il m'a fallu attendre à peu près 5 ans sans avoir des effets secondaires. C'est-à-dire que la stabilité ne se fait pas d'emblée en prenant le traitement.
Ouais.
Et là, je n'étais plus dans le déni. C'est-à-dire que j'acceptais ma bipolarité comme si j'étais cardiaque ou comme si j'avais un cancer.
Mmh.
Et qu'il fallait que j'aie un traitement pour soigner ma maladie.
Et je suppose qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'on n'est plus dans le déni, on a beaucoup plus de force et de patience.
De patience.
Pour accepter.
Parce que la force, au départ, on n'en a pas. Les médicaments font l'effet de drogue. Il y a des effets secondaires, j'avais les mains qui tremblaient, je n'arrivais plus à raisonner, je n'arrivais plus à parler, je bavais. Et ça, ça a duré 4 à 5 ans. Ça a été le moment le plus dur de ma vie.
Oui.
Parce qu'en plus, il n'y avait plus de phase euphorique. Donc ça veut dire que la vie est sombre, c'est un véritable tunnel, on n'en voit pas le bout. Et puis, j'avais gâché ma carrière professionnelle. Donc, j'arrivais, j'avais 40 ans, entre 40 et 45 ans. C'est le moment où on fait le bilan. Et le bilan était très, très triste. Et à partir de 50 ans, j'ai commencé à aller de mieux en mieux. Et là, ça fait 9 ans. Tout va bien.
Ah, super.
Tout va bien.
Tout va bien.
Eu simplement une petite rechute à l'été 2019 parce que j'avais recontacté mon premier psychiatre pour la remercier de m'avoir donné le bon diagnostic. Et là, j'ai eu une petite crise d'euphorie. Et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est mon entourage qui s'en est aperçu.
D'accord. Bon, il valait mieux que cette rechute penche de ce côté-là. Hein,
voilà. Et pourtant, je n'ai jamais cessé de prendre mon traitement. Donc ça veut dire qu'il y avait une émotion très très forte à l'égard de ce psychiatre. Mmh.
Sans doute des capteurs, vous savez, on a dans le cerveau des capteurs qui se rouvrent comme des radars, vous voyez, une émotion peut tout à coup, comme si il les rappelait, comme si un son, une odeur, la voix de quelqu'un ou un souvenir, en tout cas quelque chose qui fait que ces capteurs, d'un seul coup, reconnaissent à l'instant T et s'ouvrent. Et c'est là qu'on vit cette émotion-là beaucoup plus intensément.
Ah oui, surtout que là, ça m'a procuré une émotion de grande bonheur. Mais je ne m'en suis pas aperçue que je refaisais une crise d'euphorie. C'était très léger. Et je me fâchais, c'est-à-dire que quand mes amis me téléphonaient, le mot euphorique me mettait hors de moi. Parce que je l'avais suffisamment entendu durant les années passées. Et là, je tiens à vous appeler, parce que je sais qu'il y a des bipolaires qui écoutent l'émission. Surtout, il faut prendre le traitement. C'est ça la clé du problème. Et c'est ça la solution. On prend le traitement, on a une stabilité. Et après, on revit. Parce que le fait de sombrer dans la folie, là encore, il y a du plaisir. Même s'il y a d'énormes souffrances par des cauchemars, par le fait qu'il y a une rupture de vie, parce que moi, je me suis retrouvée sans travail. Enfin, c'est le RMI. Jamais je n'aurais pensé me retrouver dans cette situation. Il y a quand même le fait de partir, de quitter la Terre, de se retrouver dans son univers. C'est une grande aventure.
C'est une grande aventure quoi, pardonnez-moi ?
C'est une grande aventure psychologique.
Psychologique, ouais.
Et elle est très trépidante. C'est-à-dire que c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et quand on retourne à la réalité avec sa stabilité, avec les repères de tout le monde, la vie est fade.
Oui.
Et c'est ça qui est difficile pour accepter la maladie.
C'est terrible, hein, cette bipolarité, c'est parce qu'il y a, on l'entend dans ce que vous nous racontez, on doit faire preuve d'une grande force, d'une grande volonté, une fois que le diagnostic est posé, pour accepter en fait qu'on va devoir lâcher ces sensations-là.
Exactement, exactement.
Qui sont
Mais j'ai
finalement.
J'ai eu la chance, je suis tombée sur d'excellents psychiatres. Là, je dois dire que... Et ce qui m'a sauvée aussi, c'est la foi. Lorsque j'avais des moments de souffrance, j'allais me réfugier dans l'église de mon village et ça me reposait, ça me détendait, ça m'a permis de trouver cette force, justement, pour être patiente et accéder à la normalité. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce qui m'arrive parce que, bon, j'ai perdu ma mère il y a 5 ans. Mon père a 86 ans et je m'occupe de lui. Je suis en mesure de m'occuper de lui, de m'occuper de ses papiers, de l'aider. Et je me dis, la roue tourne, c'est-à-dire qu'ils se sont occupés de moi pendant près de 30 ans. Et c'est à mon tour maintenant que j'ai retrouvé un équilibre grâce à ce traitement. que j'ai la satisfaction de pouvoir m'occuper de la fin de vie de mon père. Et ça, c'est un grand chemin moralement.
Un grand chemin, je vous le confirme, Isabelle. Il y a quelque chose qui attise ma curiosité aussi. Vous l'avez dit plusieurs fois. Vous m'avez dit, ça, c'est grâce au fait que je suis tombé sur de bons psychiatres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par là ? Parce que je ne vous demande pas de me parler de la combinaison magique, hein, médicale pour vous sortir de là, mais tout ce qui est de l'ordre du chemin qu'on parcourt et l'accompagnement de ces psychiatres, il a dû être très important pour vous afin de vous faire...
C'est-à-dire qu'ils avaient les bonnes réponses. Dans le moment d'euphorie, ils avaient les mots justes pour ne pas m'énerver. Alors que j'ai été en contact d'autres psychiatres qui m'agaçaient. Et comme ils m'agaçaient, je les rejetais et je rejetais ma maladie. Mmh. Alors qu'avec les deux psychiatres, la première qui a bien diagnostiqué et le deuxième qui m'a donné un traitement, parce que j'ai un traitement de 6 médicaments par jour actuellement, en camisole chimique.
6 médicaments ?
6 médicaments par jour. Mmh. 3 le matin, 3 le soir.
Et vous parliez d'effets secondaires, là, il n'y en a pas trop ?
Non, il n'y en a plus. De temps en temps, j'ai des petites insomnies qui recommencent, mais très vite, je retrouve mon équilibre. Comme j'ai une allocation d'adulte handicapé et que je ne travaille pas, je ne suis pas dans le stress de l'insomnie en me disant « demain, il faut que je travaille, je ne vais jamais tenir, je vais être fatiguée ». Donc généralement, le lendemain, je récupère mon manque de sommeil. Et puis comme j'étais de métier designer graphique, ce qui m'aide aussi, en plus de l'écriture, c'est que je compose des affiches sur Photoshop et Illustrator. Et ça, la créativité m'aide beaucoup à... Comme ça fait un échappatoire. Et il y a du plaisir.
Est-ce que dans ces créations, vous projetez... Tout ce que vous avez imaginé parfois dans la folie.
Oui, j'ai eu quelques illustrations où je l'ai fait, ça. Mais j'ai très vite abandonné parce que l'écriture me permettait beaucoup plus d'évacuer mes émotions, plus que l'image. L'image, j'ai retrouvé mon travail d'antan, la structure de la forme des mots, la composition des formes, les couleurs, parce que je dessine depuis l'âge de 5-6 ans. Mais c'est l'écriture qui m'a permis de tourner une page et de fermer un livre, comme si je quittais un vilain cauchemar. Alors que le graphisme, ça me permet d'aller de l'avant. Comme si je reprenais mon métier. Voyez-vous ?
Mmh. Je vois. Il y a aussi, j'entends beaucoup de sagesse. Hein,
on devient philosophe. Hein.
Oui, mais ça, croyez bien, Isabelle, que ça n'est pas le cas de tout le monde. Hein, parce qu'il faut, un certain temps. Quel âge avez-vous ? Ça vous embête de
59
venir ?
Ans.
59 ans. Je pense aussi qu'aujourd'hui... Vous êtes plus apaisé parce que vous avez compris beaucoup de choses. Et j'ai l'impression, en plus, que au-delà de la patience, au-delà de la compréhension de la maladie, il y a aussi une dimension dans ce que vous me dites, c'est accepter d'avoir eu cette maladie, de l'avoir, mais accepter qu'elle vous ait handicapé, c'est le mot, mais vous voyez qu'elle vous ait empêché de réaliser certaines choses, mais que vous ayez la conscience aujourd'hui que vous pouvez en réaliser d'autres ici et maintenant. Et ne pas être nostalgique du passé, comme ça aurait peut-être pu se passer mieux, j'aurais peut-être pu faire ça s'il n'y avait pas eu ça. Vous voyez, vous ne souffrez pas de ce type de pensée, j'ai l'impression.
Non, pas du tout.
Vous êtes là, maintenant.
Mais c'est l'écriture hein, qui m'a permis d'aboutir à tout ça. J'ai écrit une nouvelle, notamment la dernière, c'était durant l'été 2019, le journal d'une femme bipolaire. Mais ça a été, en revanche, au moment de l'écriture, c'était beaucoup de souffrance. Mais ça m'a permis d'évacuer tous ces paramètres, toutes ces histoires. Parce que c'est terrible. Moi, je sais que quand j'étais enfermée chez moi à hurler dans l'appartement, j'étais persuadée que j'avais des micros dans la radio et que les gens de la radio m'épiaient et me parlaient. Donc ça, c'est difficile à assumer dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on redevient normal. Et l'écriture m'a permis de fermer, de boucler l'histoire. Comme si j'avais fait un long voyage et que finalement, bah, j'en suis revenue et que je préfère de loin la réalité à la démence.
C'est exactement le chemin qu'il faut prendre, hein, Isabelle. Mais bon, on sait combien c'est difficile d'en arriver à gravir, hein, ce chemin.
Oui. Bah, disons que le plus dur, c'était d'admettre la maladie, accepter le traitement et ne jamais cesser de le prendre. Là, maintenant, ça devient un automatisme. Matin et soir, je prends mes comprimés et puis... Et la vie a repris son cours.
Fatia...
En revanche, je me suis retrouvée très seule.
Mmh.
J'ai rejeté tous mes amis. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que quand j'ai repris contact grâce à Internet et grâce à Facebook notamment, ils m'ont tous accueillie. Hormis une ou deux personnes, j'ai retrouvé tous mes amis. Et ça fait chaud au cœur.
Mmh. Fatia, au 739-21... vous pose une question. Elle vous dit d'abord qu'elle a été diagnostiquée bipolaire depuis peu. Hein, et elle aimerait savoir s'il est possible de continuer à avoir une vie sociale. Vous avez répondu à la moitié de la question, là, déjà. Mais est-ce qu'avoir une vie sociale, c'est possible?
Oui, c'est possible, à condition de trouver la stabilisation grâce aux médicaments. Il ne faut jamais arrêter le traitement. Parce que le traitement fait qu'à un moment donné, on se trouve normal. On se dit, bon, on n'en a plus besoin. Tout est rentré dans l'ordre. Et là, on rechute. Bien sûr qu'on peut garder un lien social et un lien professionnel. Je sais que là, je fais des affiches culturelles. J'ai repris contact avec des personnes de métier et ça se passe très, très bien.
Mmh.
Faut pas se décourager. Il faut surtout continuer à prendre les médicaments. Parce que moi, j'étais phase de psychose à la fin. Tellement j'avais arrêté. J'étais dans un état dramatique.
Oui, oui.
Dramatique. J'ai démarré au lithium, et là maintenant je ne connais plus le nom de mes médicaments, mais j'en ai 6 par jour. Bien sûr qu'on peut garder un lien social, et si on continue de prendre son traitement, il y a une stabilité. C'est long, il faut être patient, il ne faut pas se décourager. Et après, la vie reprend son cours. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est que le fait d'avoir quitté Paris, je me suis retrouvée en province, c'était beaucoup plus calme. Ça m'a permis aussi de tourner la page. Je ne sais pas si j'aurais réussi, en restant à Paris, à trouver cet apaisement.
Merci Isabelle, merci
je
mille fois
prie,
pour votre témoignage si lumineux ce soir. Je pense que toutes celles et ceux qui souffrent de cette bipolarité, car c'est un mal assez répandu malheureusement, auront identifié ici et là quelques points communs qu'ils ont avec vous et pourront peut-être se renforcer ce soir et se dire que tout est possible, je le dis souvent.
Voilà, il faut garder l'espoir.
Tout est possible. Il faut d'abord commencer par le vouloir.
Oui. Et puis, oui. Je sais. Bah oui.
Merci mille fois, Isabelle.
Je vous en prie, Olivier. Passez une bonne soirée.
Vous aussi. Au revoir.
Au revoir.